Les lutins vous rappellent que si vous n'écoutez pas avec une version Spotify Premium, vous n'aurez qu'un extrait de 30 secondes des chansons. Vous pouvez cependant retrouver la playlist de l'émission en suivant les lutins de l'enfer sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Ici James Bond. Certains me connaissent sous le sobriquet de Roger Moore. Eh bien, sachez que je suis un très grand fan de Hypocrisie et cette semaine, le Lutin D fait tout un spécial avec une partie de leur discographie intégrale. Nous aurons également droit à une petite chronique littéraire et je vous réserve un film bidon de merde que j'ai joué dedans pour la fin. Sur ce, bonne émission.
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Hey! Salutations à toutes et à tous! Bienvenue à ce nouvel épisode des Lutins de l'Enfer. Je suis le Lutin O, en compagnie des légendaires Lutin K et Lutin D. Comment allez-vous?
Très bien, comme une légende.
On est légendaire pourquoi exactement?
Ça fait des années que vous êtes connus à travers les ondes radiophoniques.
Ah, d'accord.
Mon époque de radio a commencé au cégep.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Où ce que j'aimais, c'était le chaos.
CDPT.
Ouais, c'était CDPT avec un gars qui venait tout le temps nous voir pour dire que ça piquait. Donc, même quand c'était DJ Random qui s'occupait de la playlist, ça pique.
Ah oui, c'est vrai, on avait instauré le DJ Random.
On avait la chronique Mentos, c'est tout.
Oui. Il faudrait se renseigner si on peut avoir les droits de la chanson, ce serait malade. Ça doit être gratuit, ouais. Je peux pas croire.
Ben, si pas. Bonne Fête n'était pas gratuit, je suis sûr que la tonne de Mentos ne l'est pas non plus.
C'est vrai, hein, Bonne Fête, il y a des droits d'auteur pour ça.
Hey. Pas vrai? Mm-hmm. Personne doit être riche. Peut-être un petit disclaimer aussi pour cette émission. On enregistre le soir du match numéro 5 dans la série entre les Leafs et les Canadiens. Et je pense que Lutinka est un des plus grands fans des Glorieux que je connaisse. Il est un éternel croyant.
Ben, il faut, hein. Je veux pas en donner. Tant que les gars patinent, il y a de l'espoir.
C'est pas toujours le cas.
Non, ben, des fois, il y a des soirs qui patinent pas, en effet. Mais bon, il y a des fois et tout que le hockey luge avec les handicapés, là, ils ont des genres de petits bâtons sur des luges. Il y a des soirs qui battraient nos Glorieux tellement qu'ils sont mauvais. Mais bon, ça arrive, hein? Toutes les équipes connaissent des passages à vide de même, ou même des grands joueurs. Les Pingouins sont fait sortir hier, Sidney Crosby s'est fait sortir comme si de rien n'était.
Dans le cas des Glorieux, par contre, c'est plus une 3 décennies à vide. Là, que.
Bon, on va y aller avec le Canada. Hein? Le Canada n'a pas de coupe depuis au-dessus de 25 ans. Hein?
Okay. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Canadiens les derniers qui ont gagné la coupe.
Bien sûr.
Ben oui, tout ça. Et aucune autre équipe canadienne qui a gagné.
Non, on a eu les Canucks 2 fois en finale, les Oilers 1 fois, ouais. Et les Flames 1 fois depuis 93.
Incroyable. On fait petit.
D'accord. Ouais, c'est quand le monde dit les Canadiens ne gagneront pas cette année. Ouais, mais à la limite, il y a quand même 30 autres clubs qui ne gagneront pas non plus. Là. Ça me stresse pas que tu me dises qu'ils ne gagnent pas. Là.
Exact. C'est pas la panacée quand même.
Non,
ben
non,
oui,
c'est
mais...
ça.
Mais bon.
Ben, c'est parce que le monde, ils ont de la misère à décrocher des années 50 puis 70. Là. Mais tu sais, ce monde-là meurt tranquillement, pas vite, là, puis ils vont arrêter de nous en parler.
Ben remarque, les Canadiens eux-mêmes ont de la misère à décrocher. Là. À chaque fois, c'est tout le temps des images de Guy Lafleur puis de je sais pas qui nous montre.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, Si tu veux.
Non, mais c'est des héros, tu sais. C'est nos jeux César, là, on fait des statues.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
À défaut d'avoir du monde qui rentre, de, je sais pas, d'un village, on va dire Saint-Jérôme, puis qui crame tout, puis qui arrache des têtes, puis qu'on fasse une statue après, ça arrive nord, on a des joueurs de hockey à la place.
Quand ils disent que le hockey est violent, on n'est quand même pas rendu au statut des Romains. Là.
Non, c'est ça, là. Mais bref.
C'est pas si pire. Et voilà, bref. Toute, toute une émission pour vous ce soir.
Oui, musicalement encore très intéressant. Et je sais que tantôt, James Bond nous a parlé de la discographie d'Hypocrisy, mais j'ai été bien, bien content d'entendre les pièces que le Lutin D a choisies pour Hypo.
Ça m'a remis dedans. J'ai eu bien du fun à écouter la discographie, puis ça m'a permis de redécouvrir des albums que j'avais un peu moins écoutés. Fait que, je vous fais part de ça tantôt.
Oui, en effet. Mais pour l'instant, on va commencer la musique avec... ben, il y en a des fois, des auditeurs, j'ai entendu qui... Ben, moi, quand ça fait juste gueuler, j'aime un petit peu moins ça. Parfait, là, on va avoir des groupes que ça fait juste brailler à la place. des adolescents pas contents parce que leur maman veut plus qu'ils répètent dans le garage. Ça fait que... Non, je dis de la musique d'adolescents, là, c'est qu'ils sont fâchés, puis les refrains, tu sais, ça pleure, puis c'est mielleux, puis ça se rouvre les veines, tu sais, en buvant du Kool-Aid. Plusieurs groupes de même, mais j'aime ce mouvement-là, quand même, de metalcore, souvent, là. C'est... Et souvent, le metalcore est pas très bien vu dans côté métal, surtout le metalcore braillard de même, là. Il y a plein de styles qui rentrent, comme le emo-core ou le crying-core.
ils sont juste l'autre bord du métal, tu sais. Ils sont à côté de sa clôture, puis ils braillent leur vie. Acceptez-nous!
Ben, souvent, musicalement, ils sont quand même là. Des fois, le look, ils sont quand même là, mais c'est ça. C'est des fois, peut-être les sujets, tu sais, death metal, ça parle de la mort, puis eux autres, ils parlent que, tu sais, il est allé chez le fleuriste, il restait plus de pétunia, il est donc triste. On passe à autre chose, là.
Mais étrangement, quand on écoute la playlist de Spotify, New Metal Tracks, il y a beaucoup de core, je trouve.
Mm-hmm. Bah, le core, dans le fond, c'est l'impression, c'est. À chaque fois, il y a deux styles qui sont fusionnés moindrement ensemble, ça tombe core.
Ouais, tout devient propice à être core.
C'est ça, core, c'est la première évolution, tu sais. Au début de Meshuggah, t'avais le mat core, puis là, c'est devenu du gent, tu sais. Quand le style a pogné, là, on dit, OK, là, on passe la phase core, tu sais. Fait que, tu sais, il y a du hardcore depuis des années, tu sais, qui cherchent à évoluer, tu sais. C'est comme un Pokémon, ils ont juste pas fait assez de level pour évoluer.
Mais tu sais, on peut dire que le core dans le métal aujourd'hui est un peu ce que l'alternatif était dans les années 90. Là, ouais. Toutes les bandes qui n'étaient pas définies dans la vie faisaient de l'alternatif. Ça fait que. Donc, moi, je vais commencer ça avec un groupe que j'aime vraiment. Ben, j'aimais beaucoup, malheureusement. Le groupe a trop changé, mais je l'aime encore. Ça s'appelle Crown the Empire. Ils ont sorti quelques albums. Leur premier EP était très excellent, leur deuxième album, leur troisième album était très très bien. Moi, j'ai choisi une tune du deuxième album, c'est la pièce Bloodline, qui est probablement ma tune préférée. Elle était également sur les Guitar Hero qu'il y avait eu pour la génération PlayStation 4 et Xbox One. C'est pas de bonne pièce, bon vidéoclip qui va avec. Il y a eu beaucoup de changements dans le groupe. En effet, ils ont perdu leur deuxième chanteur qui faisait le vocal vraiment agressif. Il n'est plus là. Ils ont perdu un guitariste également depuis. Ils sont partis de 6, sont rendus 4. Puis les 4, à cette heure, on va dire, Lee Hanson doit être leur modèle. C'est pas... c'est plus, malheureusement plus bon. Ça lève plus, c'est mou. C'est que du gros pop commercial. Donc, c'est dommage. Un groupe que j'ai été content d'y voir en show, même s'ils m'ont fait chier tout le long du show. Ça fait que... ils ont pas fait les tunes que je voulais parce qu'il manquait seulement du monde dans le groupe. Ça fait que c'est la vie. Et un groupe qu'on va entendre juste après, c'est un groupe qui a changé de nom. Il s'appelait Capture the Crown. Aujourd'hui, ça s'appelle seulement Capture. Ce groupe-là vient d'Australie. J'avais découvert que leur gros single, You Call That a Knife, paru de l'album Till Death en 2012. Et comme le disait un de mes chums de gars, Yann, quand il écoutait cet album-là, il s'est senti violé. Parce que malheureusement, la pièce You Call That a Knife, dans mon top 10 des pièces à vie, peut-être même dans mon top 5 de mes pièces préférées à vie, mais c'est la seule tune qui est comme ça de l'album. Il n'y a rien d'autre qui se rapproche de ça sur l'album. C'est. Ah, ça pleure longtemps, là. Ça fait que. Quand vous demandez ce que je veux dire par quand ça pleure, Danton, il va pleurer un peu, ben dites-vous que tout le reste de l'album, c'est comme ça, là. Il se passe rien d'autre. Fait que. Du Capture, mais juste avant, Crown the Empire. Ah! Nous venons d'entendre le groupe Upon This Dawning avec la pièce Embrace the Evil de l'album We Are All Sinners, qui était leur deuxième album, paru en une année quelconque que j'ai oublié de noter. C'est un groupe italien, donc j'aurais pu y mettre dans mon première émission, j'avais fait un spécial Italie, mais je les avais gardés justement, vu que ça pleurnichait là, pour un blog de musique de pleurnichage. Ils ont deux albums, comme je disais, ce groupe-là, ils n'ont rien fait depuis. Le deuxième album est quand même très bon. Le premier album, c'est une perte de temps à écouter. Là, je me demande comment ils sont rendus au deuxième à cause du premier. Donc, c'est ça qui est ça. C'est pas comme les films, hein, des fois, les CD de musique. Tu sais, un film, quand le premier pogne pas, il n'y a jamais de suite. En musique, ça arrive souvent. Quand le premier pogne pas, il y a quand même une suite.
Ils se réessayent.
Non, ils ont le droit. Écoute, ils se font backer par mon oncle. Fait que...
Ouais. Puis en passant, ça, c'est le chanteur de Upon This Dawning, une petite moustache molle pour ceux que ça l'intéresse.
C'est toujours intéressant, une petite moustache molle.
Ben, ça fait partie, hein. Tu sais, tous les groupes qu'on vient d'entendre, c'est tous des chanteurs qui aiment les camisoles, trop décolletées, ils aiment les moustaches molles, les coupes de cheveux de côté. Et, tu sais, les gars, ils ont 18 ans, puis ils ont déjà pour 58 000 piastres de tatou ses bras. Ça fait quand ça va bien, hein?
On voit où est-ce qu'ils investissent leur gain.
Ben, c'est des faux tatous. Ils font comme dans le K-pop, là, souvent. Ils se font mettre des décalques.
Qui changent à chaque show.
Ben, ils changent pas à chaque show, mais tu sais, un tatou, il faut que ça se fasse se retravailler un peu parce que, tu sais, ça devient plus pâle, hein, dans la vie. Puis les autres, ils sont encore tout lustrés, éclatants, après tout ce temps. Ça fait que, permets-moi d'en douter. Toi, qu'est-ce que t'en penses, dis?
Ben, dans le K-pop, ça paraît là, que c'est des décals. Mais, ouais. Je sais pas aussi qu'ils vont le chercher, leurs 50 000 piastres de tatou. Moi, à 18 ans, j'aurais aimé ça savoir où c'est qui.
Ouais, parce qu'en plus, même, tu sais, le groupe est pas connu, puis ils ont déjà des super de bons instruments, bonne production, tout. À quelque part, c'est peut-être. Ah! Probablement qu'ils vendent leur corps à temps perdu pour se financer leur groupe.
C'est pour ça qu'ils pleurent.
Eh oui, ils sont pas fiers d'eux.
Voilà. La boucle est bouclée.
On va entendre d'autres broyages plus tard dans l'émission.
Mais en parlant de moments pas le fun, ben, pas le fun, est-ce que j'aimerais ça vous faire une petite chronique littéraire, question d'être culturé un peu?
Ben ouais, James Bond en avait parlé tantôt.
Alors, mes petits lutins, sortez vos monocles, c'est l'heure de parler de livres.
Donc, de quel livre veux-tu nous parler?
Ben, car je sais pas si ça va te faire lever le poil sur le bras, mais j'ai lu le dernier livre de Patrick Sénécal.
Ouais.
Ça ne te fait...
Ni chaud ni froid.
Ni chaud ni froid. Il y a eu quelques échauffourées entre le Lutinka et Patrick Sénécal au cégep, mais...
ça remonte à loin. Il était jeune et innocent.
Ouais, voilà. Mais malgré tout, il écrit vraiment des très bons livres. Là. On a acheté son dernier livre, je pense, un dimanche. Moi, je l'ai lu en 3 jours. Le lendemain, mon épouse l'a commencé, puis elle l'a lu aussi en 3 jours. Fait qu'en une semaine, on l'avait lu les deux.
Croyez, vous lisiez en même temps. Vous teniez chacun votre bord de page, puis vous concertiez savoir quand tourner. OK.
Un peu trop. Je sais qu'on dit ça à chaque livre qu'il fait, là, mais celui-là est particulièrement troublant parce qu'il écrit du point de vue d'une enfant de 8 ans qui est un peu psychopathe, ses bords. Je veux pas vendre de punch, là, Mais en tout cas, vous irez voir ça, c'est ça vaut la peine. Il avait fait le coup un peu dans un de ses premiers romans, Alice, qui avait écrit du point de vue d'une adolescente. Mais là, cette fois-ci, il écrit du point de vue d'un enfant de 8 ans. Puis il a vraiment fait des recherches pour essayer d'avoir un style. Tu sais, mais mon épouse qui est enseignante dans ce groupe d'âge-là...
Un style.
Non, mais un style d'enfant de 8 ans.
Okay,
essaye d'écrire comme un enfant de 8 ans.
OK, okay. Puis, il écrit comme si...
Oui, ben c'est comme le journal intime de la petite fille.
Ben, comment qui s'appelle exactement ce livre-là?
Flo.
Flo, OK.
Ouais.
Ben, j'ai une amie qui l'a lu puis elle l'a bien aimé. Là.
Ouais, c'est très bien fait. Troublant.
Y a-t-il un nouveau film qui s'en vient au cinéma de M. Sénécal?
Il a sorti une série un peu à l'Alfred Hitchcock qui dit, je l'ai pas vu encore. Parce que c'est sur la plateforme de TVA, là, puis je suis pas trop là-dedans, mais ça semblait intéressant.
Ouais, il a pas choisi la bonne plateforme.
Ouais, on va avec ceux qui payent, j'imagine.
Ouais, non, ben, c'est correct de même aussi, là.
Ouais. Fait que, ouais, vous irez lire ça, Flo, ça se lit très rapidement, puis c'est très bon.
Mm-hmm. Oh, ben, moi, non, moi, je lis surtout de la BD, des boules et billes, là.
Gaston Lagaffe et autres.
Lucky Luke.
Gaston Lagaffe, il y a beaucoup de textes là, quand même. Lucky Luke, il y a trop de couleurs, ça me mélange là.
Non. Léonard, c'est pas pire ou.
Ouais, Léonard aussi, il y a quand même beaucoup de gags visuels là, donc. Quand je fais des faces, là, je lis surtout de la BD de DC. D'ailleurs, je viens de commencer le Justice League Dark, la quatrième partie et le tome final. Du rebirth, là. C'est que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer parce que ben ils sont dans la marde. Le 1 fini, ils sont dans la marde, dans le 2 ils sont encore plus dans la marde, dans le 3 encore plus. J'ai hâte de voir comment ils vont sortir de tout ce beau bourbier Zatanna et Wonder Woman.
Ben moi je suis en train de lire Arlene que tu m'as prêté, qui est l'histoire de Harley Quinn, dans le fond. Moi, à date ça, je trouve ça super bon. C'est très bien dessiné. Je me souviens plus du nom de l'auteur.
Bon, c'est un nom polonais, là.
C'est rafraîchissant comme BD. C'est moins concentré sur l'action, plus sur la psychologie du personnage. Puis, à date, j'aime vraiment ça.
Ben, c'est la série des Black Edition de DC. C'est comme toutes des spin-offs, des numéros à part, des trucs de même. Là. Puis c'est souvent des auteurs plus de répertoire qui vont prendre. Là, puis ça se reflète très bien dans Harlene, comme tu disais, avec le gars qui fait tout seul. Là.
Mm-hmm. Fait que je vais sûrement vous en glisser mot quand je vais l'avoir fini, là, mais là j'arrive à moitié, fait que je prends mon temps, je la savoure, elle est vraiment très bonne.
Vous irez lire ça aussi.
Voilà, plein de recommandations de lecture lutinesque.
Oui. On fait-tu la recommandation musicale maintenant?
Certainement. Alors, un groupe tout d'abord, qu'on a entendu il y a quelques épisodes, mais c'était une pièce d'un plus vieil album que Lutin D avait mis. Mais cette fois-ci, c'est une pièce de leur dernier album qui est sorti cette année, en 2021. Il s'agit du groupe portugais Moonspell, qui a sorti l'album Hermitage cette année. Un album que ce que j'ai vu sur les quand même des critiques partagées sur l'album. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est un album qui est beaucoup plus épuré que ce qu'on est habitué d'entendre de Moonspell. Moins d'arrangements quelconques, mais je pense que la qualité des musiciens a réussi à transparaître quand même plus dans cette version épurée-là du band. La mélodie est très bonne et personnellement, j'ai bien aimé l'album.
Il y a un bon vocal et tout, notre ami Fernando.
Mm-hmm.
Certainement.
Et tu vois, moi, j'ai fait quelques écoutes d'album, puis moi, j'ai moins accroché à date. Je trouve qu'il manque un peu de côté métallique de Moonspell, puis même si il y a quelques années, ils sont retournés à un côté un peu plus gothique, puis, tu sais, mettons, comme l'album Omega White, qui est plus gothique, que je trouvais quand même très bon, celui-là, j'ai moins accroché. Là, j'ai peut-être 3 écoutes de fait à date, ça fait que je vais le réécouter encore, je vais donner... avant de donner un avis officiel, mais à date, je trouve que ça passe moins bien. Là, moi, j'aime plus le côté beaucoup plus métal de Moonspell. Là.
Plus sale.
Ouais.
Après Moonspell, on va entendre un groupe que... Ben, tous les groupes de ce bloc-là, j'ai été surpris de constater à quel point ça faisait longtemps que ça existait. Moonspell, je savais que c'était assez ancien. 1989 que le band a été formé. Le deuxième band, c'est Catatonia, un band de Suède formé en 1991. Ils ont pris une petite pause en 2017 et 2019.
C'est deux ans, tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais ils sont revenus en force avec leur 13e album en 2020. L'album qui s'appelait City Burials, un excellent album que j'ai bien aimé. Quand même smooth, une bonne ambiance. Voilà. Je connaissais pas vraiment Catatonia avant, malheureusement, mais... Un très bon band.
Des ai vus en show, je crois.
Moi, je les ai vus deux fois certains en show. Je suis pas un grand fan de Catatonia. Je les ai vus en première partie de d'autres groupes que j'allais voir, mais j'aime vraiment tout ce que j'entends comme single. Où, j'ai une amie qui aime beaucoup Catatonia, m'en fait écouter, puis j'aime ça. C'est ça. C'est un bon matin, tu te lèves, là, tu fais comme voyons, je suis trop joyeux aujourd'hui. Habituellement, je suis plus dépressif que ça. Et Catatonia, c'est ton album à mettre dans ton auto pour aller travailler.
Ou tu sais, pour commencer avec un petit café smooth.
Mm-hmm. Ben, faut que tu le manques, ton café. Là. Avec un café manqué, tu sais, ça va juste aller de pair avec ton Catatonia. Là, qui...
mm-hmm.
Alors, on écoute ces joyeux lurons au lutin de l'enfer. C'était l'album Obsidian du groupe Paradise Lost avec la pièce Ghosts qui est paru l'année dernière.
Paradis perdu, là.
Ouais, j'ai dû me ressaisir l'espace d'une seconde. Paradise Lost, je parlais d'un band vieux, mine de rien, 1988, que ça a été formé. Paradise Lost, un band des UK qui ont sorti leur 16e album en 2020 quand même. Puis surprenamment, le line-up est pratiquement intact depuis 1988. À part le drummer, évidemment, on ne sait pas pourquoi toutes les bandes ont de la misère avec leur drummer. Mais,
comme disait un autre chum de Gobig, c'est dur de trouver un bon drummer. Donc, c'est pour ça qu'il s'était mis au drum. Il disait, allez, faut trouver des bons drummers, on va drummer tout seul. Là.
Peut-être qu'il y a un de ces bandes-là qu'il faut finir par le recruter.
Ben, tu disais, c'est dur un bon drummer. Tu sais, souvent, il y a des artistes qui vont faire des albums, tu sais, composer l'album au complet, puis c'est des one-man band, mais ils vont souvent faire appel à un autre drummer pour faire le drum parce que ben, ils sont pas capables de rentrer le drum qu'ils composent. Donc.
Ah, ben, c'est pas un instrument facile, surtout dans le métal. On est loin des Beatles.
Ou des Beach Boys. Ah, mais Ringo Starr est le premier drummer open hi-hat, paraît-il.
Oh!
Louis Jesuud, qui disait, quand il parle des Beatles, tu sais, il dit, quand t'as Paul McCartney pis John Lennon dans ton groupe, pis t'as même George Harrison capable de chanter, pourquoi faire tu fais chanter Ringo, tu sais? Mais c'est un vrai boys band, on s'entend, parce que tous les boys band, les Backstreet Boys, NSYNC, tu sais, tous les membres chantent. Les Beatles étaient un boys band, le Fab Four, tout le monde chantait.
Fait que dans, mettons, Mastodon, tout le monde chante, donc Mastodon est un boys band.
Oui. Ben en plus, ils ont sûrement des petits costumes assortis. Mastodon, des Beatles, ont des petits costumes assortis. Sir John Pepper, là, ils ont tous des genres de costumes de colonel pas possible.
Ils ont tous la même belle petite coupe de cheveux aussi.
Ouais, c'est que dans Mastodon, ils ont tous la même barbe ou tous le même tatou de poisson mort proche de la face.
Non, je sais pas.
Aïe, aïe.
Parce qu'il y en a un qui a un poisson mort, je pense, hein, d'en face. Mastodon, ouais, c'est ça. J'étais plus sûr que c'était bon groupe, mais. Ah, quand tu veux te faire tatouer d'en face.
Il est peut-être vivant, le poisson. Sur son tatou.
C'est un squelette. C'est un squelette. Squelette.
Ouais.
Ouais. Bon.
Tu réanimes pas ça, là.
D'accord. À moi, tu es un nécromancien.
Ou c'est peut-être une radiographie d'un poisson vivant.
Ah!
C'est
peut-être la radiographie de son propre poisson Kiki le poisson rouge. Parce qu'il aime bien Kiki, il peut pas l'amener en tournée avec lui, tu sais. C'est un moyen comme un autre.
Puis le seul appareil qu'il y a chez eux, c'est un appareil qui fait des radiographies. Fait que, coudon. On fait avec ce qu'on a.
Il est rarement chez eux. Hein, ça, qu'il sait qu'il part avec de stock pour prendre des photos. Là.
Voilà. Information ajoutée sur la page Wikipédia de Mastodon.
En parlant de groupes pas souvent chez eux, de personnes, dis, tu vas nous parler d'un groupe et d'une personne en particulier.
Ouais, ben en fait, cette semaine, je me suis amusé à faire un petit spécial. En fait, je voulais faire juste un bloc, mais vu que j'ai eu bien du fun à écouter la discographie complète, je me suis dit, allons-y avec deux blocs, puis on va parler du band. Je m'éterniserai pas ici sur la discographie complète du groupe. Là. Dans le fond, je vais faire un petit vidéo YouTube pour ça. Donc là, je vais plus y aller avec la sélection musicale. Fait que si on parle d'Hypocrisy, band qui a été fondée par Peter Takren en 88, ça portait un autre nom. Puis c'est devenu Hypocrisy en 91. C'est lui qui a produit tous les albums du groupe. Puis dans le fond, il est dans le groupe Pain aussi depuis 96. Ben, le groupe Pain, dans le fond, il est tout seul là-dedans. C'était un side project comme hobby. Puis finalement, il y a 6 albums qui ont été dans les charts en Suède pour Pain. Fait que finalement, ça s'est avoué être plus payant.
Ben, c'est du bon industriel, Pain.
Moi, oui. Je vais sûrement en faire jouer à la prochaine émission, vu que je me suis amusé à écouter un peu la discographie de Pain. J'ai pas terminé. Mais fait que je vais vous en faire jouer à la prochaine émission. Puis aussi dans Lindemann avec Till Lindemann, leader de Rammstein. Il a quitté le groupe, je pense, cette année, en 2021 ou en 2020. Mais sinon, il a produit et composé et joué tous les instruments des deux albums de Lindemann.
Ben, c'est un producteur. Il y a les studios Abyss, je crois, qui sont à lui.
Ouais, c'est ça. Il est studio Abyss. Il a produit énormément d'albums pour d'autres artistes.
Ben, Children of Bottom, Ark Enemy, entre autres, là, dans les connus. Là.
Mon Amart aussi.
Je sais que pour Ark Enemy, oui.
Il chante sur la tune Grand Ball de Turmion Catilotte.
Ah, c'est lui. Ben, je sais que pour Ark Enemy, l'album Doomsday Machine, l'album s'est fait critiquer que Angela utilisait les filtres vocaux de Peter Takren, mais tu sais. C'est lui qui l'a fait en studio, il a proposé, puis elle l'a pris. Why not, là? Ben, en plus, Peter, de faire tout ça, il est maire d'un village.
Ouais, là, si j'ai bien lu, là, j'ai pas ça devant moi, mais il a acheté ce village-là, c'est pour ça qu'il est maire.
Il a okay, acheté un village?
Ben oui.
Ben, ça a l'air que ça se fait en Suède, là.
Sûrement ici aussi, regardez, Saint-Charles s'est fait acheter par Willy Wonka, donc...
Fait que pour le premier bloc musical, j'ai décidé d'y aller avec l'époque avant Catch 22, mettons. Et puis j'ai décidé de sauter les deux premiers albums parce qu'ils sont. C'est plus death, c'est un peu moins death mélodique. Mais j'ai décidé d'y aller avec une pièce de The Final Chapter qui est probablement là, dans leur top dans mon top 3 de leur meilleur album. Là, The Final Chapter, moi je le trouve super bon. Comment on peut dire ça? La bonté de l'album est inversement proportionnelle à la beauté de la pochette, qui est une pochette exécrable. Mais bon, fait que j'y vais avec la pièce « Dominion ». Qui est une bonne pièce, rentre dedans. Puis sinon, je vais y aller avec une pièce de l'album Abduct de 96, qui est un de leurs classiques. Je voulais pas mettre Roswell 47, justement, parce que c'est probablement une de leurs tunes plus connues. Fait que je vais avec la pièce Killing Heart, au lutin de l'enfer. On vient d'entendre la pièce Paranormal Mysteria, toujours dans notre spécial Hypocrisy, c'est tiré de leur album éponyme de 99. Dans le fond, si on regarde la discographie d'Hypocrisy sur Metal Archive, dans le fond, il n'y a absolument aucun de leurs albums qui sont en bas de 80% de cote, sauf Catch 22 et Hypocrisy. Et puis je comprends un peu pourquoi que cet album-là... Et moins bien coté, le côté vocal, ça commence à se chercher. Puis dans le fond, ça paraît un peu sur cet album-là, mais il y a quand même d'excellentes pièces là-dessus. Là.
C'était pas un album avec tous des samplings du conseil municipal?
Non. Non, ça c'est... il a fait ça sur un side projet sous un autre nom. Là.
OK. Ça a de la longue. Okay.
Mais je sais pas ce que t'en penses quand j'ai vu que tu faisais la discographie d'Hypocrisy, je me suis amusé aussi à écouter leur discographie. C'est quasiment un peu ingrat comme exercice, je trouve, parce que c'est tellement un bon band. C'est comme si on se tanne un peu, mais dans le fond, chaque album est comme quand même supérieur à la moyenne de l'album. Là.
Mm-hmm.
À la moyenne des albums qui se font dans le style, je trouve.
Bon, oui, c'est vraiment une très très bonne discographie. Puis en écoutant dans ordre chronologique, ben, quand je suis arrivé à Catch 22, ça a fait mal parce que lui, il est coté à quelque chose comme 58%. Mais c'est un album que j'avais aimé à l'époque, mais je l'ai découvert après avoir écouté The Arrival pour la première fois. Puis ouais. Ces deux albums-là, c'est probablement les deux albums les plus smooth d'Hypocrisy. Fait que quand t'arrives, puis tu le prends à l'envers, ben quoi, Catch 22 passe mieux, mais là, non, ça a fait mal. La réédition est mieux côté son, mais ça reste pas le meilleur album d'Hypocrisy.
C'est drôle parce que la première pièce de Catch 22 s'appelle Don't Judge Me. Puis il y a quelqu'un dans des reviews qui disait c'est comme si Peter disait ça, tu sais, ah, j'essaye de quoi, don't judge me, it is what it is.
Mm-hmm.
Pour revenir à ce qu'Olivier disait tantôt, leur carrière, moi je trouve qu'ils sont un peu underground dans le sens, même dans l'underground. T'sais, beaucoup de festivals ou beaucoup de salles de spectacle, quand tu checkes les shows, sont pas nécessairement la grosse tête d'affiche. Ils sont souvent en première partie des trucs de même. Pourtant, comme on dit, c'est un groupe qui rentre depuis longtemps, qui sont crédibles, puis même encore aujourd'hui, festival, tu sais, c'est pas eux autres qui vont finir la soirée au festival. Là.
Non, c'est ça. Quand je les ai vus en spectacle, ça a tout été en première partie. Je me souviens pas d'avoir vu passer Hypocrisy en Maine, en Amérique du Nord.
Putain, ils sont bons en show, quand même. De ce que je me souviens, ça fait très longtemps, là, mais...
Mm-hmm. Ben, ils sont corrects, veux dire, ils sont pas extravagants, là, dire, ouais. Ils font une performance. Peter est quand même sympathique.
Fait qu'on va poursuivre avec un autre bloc d'Hypocrisy. Dans le fond, on va y aller avec la pièce, une pièce de Virus qui est un de mes albums favoris, Craving for Another Killing. C'est un album de 2005. Puis avant ça, on va y aller avec la dernière pièce de l'album The Arrival en 2004, War Within. C'est une pièce qui fait vraiment... on sent l'espace dans cette pièce-là. Là. Puis c'est un peu ce que j'aime de Peter, c'est qu'il va explorer un peu des termes de l'espace. Là. On voit qu'il trippe bien raide sur les aliens. Ça se ressent dans Pain aussi, dans certaines pièces que j'ai pognées à date. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ça paraît que Peter Tachrane trippait sur les X-Files à l'époque. Là. Ça fit dans les années, c'est... C'est ça, lui s'est mis à écouter The X-Files puis il s'est mis à triper ses extraterrestres.
La raison qu'il a acheté un village, sûrement, c'est loger ses petits chummy bonhomme vert.
Ouais, mais on le voit aussi dans un vidéoclip de Payne qui a un ami extraterrestre qui reste chez eux puis qui boit le lait direct au carton. Ouais.
La pièce Shut Your Mouth, ça a joué quand même, c'était un bon succès cette pièce-là. Là.
Oh, oui, ça, à l'époque qu'il y avait les radios cool, etc., ça jouait à ces radios-là.
Aujourd'hui, il n'y a plus de radio cool, mais il y a les lutins de l'enfer.
Ouais, on fait de notre mieux pour amener le métal au public. OK, écoutons du bon hippo. C'était la pièce Tales of the Spineless de l'album End of Disclosure, qui se trouve être le dernier album à ce jour d'Hypocrisy, sorti en 2013. J'ai un peu moins accroché les deux derniers albums, même si lui est très bien coté, mais ça reste encore une fois excellent.
Ils sont en studio, semble-t-il.
En studio pour Hippo?
Oui.
Ils sont en studio présentement?
C'est ce qu'on me dit à l'oreille.
C'est ce que Peter t'a dit? Directement de son studio, dans son sous-sol d'église, de son village, dans sa Suède natale.
Rappelle-moi tantôt, Peter. Le podcast. Excusez. Il est fatigué.
Ah, ben tu m'en apprends une, j'ai pas vu ça passer, non?
Leur avant-dernier album qui était sorti, on faisait encore de la radio, moi puis Dee, et on l'avait classé haut dans notre top 10 de l'année, et c'est parce qu'il n'avait vraiment pas sorti grand-chose, parce que c'est pas un album où je suis revenu souvent.
Moi non plus, mais j'ai trouvé meilleur, A Taste of Extreme Divinity, j'ai trouvé meilleur que End of Disclosure quand j'ai fait mes réécoutes.
OK. C'est finalement ton album préféré de Hypocrisy, c'est Virus?
Mon album préféré, là, si tu me poses vraiment la question, je vais dire The Arrival, parce que c'est avec cet album-là que je les ai découverts, puis c'est aussi un album que j'ai découvert unique. Au début de ma découverte du métal en général, fait que c'est un album qui m'a beaucoup influencé, puis je le trouve vraiment super bon du début à la fin.
Mais c'est un album unique en son genre aussi, quand tu compares du même au reste de toute leur discographie, là.
Mm-hmm. Mais sinon, très 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 proche en deuxième, Virus aussi est excellent.
Mm-hmm.
Je trouvais aussi que The Arrival, c'est comme l'album où est-ce qu'ils ont vraiment comme cimenté leur style. T'sais, ils sont allés dans le gros death au début, après ça ils ont été un peu plus death vers la fin des années 90. Là ils ont essayé quelque chose de différent avec Catch 22, puis on dirait que The Arrival, ils ont tout mis ça ensemble. Puis ce mot-ci-là, ceux-là ils sont à... C'était des riffs un peu plus accrocheuses aussi, je trouve, dans Arrival. Fait que moi aussi, je pense que c'est mon préféré.
Mais je pense qu'il est tout, même qualité de production, il est peut-être une coche et tout, plus haut que les autres qu'il y a eu avant.
Puis surtout quand t'arrives de Catch 22.
Ouais, c'est pas pour rien qu'ils l'ont refait, mais c'est vrai que Catch 22, il sonnait un peu cacane.
Mm-hmm.
Okay. Bon. Effectivement, en date du 28 mars, ils ont fini d'enregistrer. Il va avoir 11 pièces pour 52 minutes. Alors, plus tard cette année, à suivre, nouveau Hypocrisy.
Pas mal sûr qu'on va écouter ça, vu qu'on est tout body-body avec Peter.
Mm-hmm.
Il y a eu plusieurs changements de line-up aussi dans ce groupe-là, au travers des histoires, vu que ça reste un projet solo à base, Hypocrisy aussi, je crois.
Mais pas tant, en fait. Ils ont eu un guitariste au tout début. Ensuite de ça, qui a quitté, le chanteur original a quitté. Puis ensuite de ça, ils ont changé de drummer après The Arrival, c'est tout. Puis sinon, Peter est resté tout seul à la guitare avec des guitaristes invités live depuis ce temps-là. Puis là, je pense qu'il y a un guitariste qui ça fait plusieurs années qu'il est dans le groupe, mais tu sais, il est là depuis Taste of Extreme Divinity, quelque chose comme ça. Là.
Je sais que quand le drummer Lars Schultz est parti, Peter avait méchamment dit « Enfin, je ne suis plus limité au drum.
» Ouch.
Mais moi, je sais pas s'il a vraiment dit ça, mais il a pogné un meilleur drummer avec Org.
C'est ce qui était traduit à l'époque, je lisais beaucoup les métalliennes des revues métal là, qu'il y avait, puis c'est ce qu'il y avait comme entrevue avec des guillemets, là, bien sûr. C'est sûrement qu'il était plus diplomate, mais j'ai l'impression que Lars manquait de souffle entre deux bouchées d'hot dog là, pour bien drummer. Là.
Ouais.
Alors, ben, merci pour cette belle discographie.
Ça fait plaisir.
Que tous les lutins ont apprécié.
Et vous irez écouter les albums, c'est du bonbon.
Ben, commencez par Arrival, hein. Je veux dire, on s'entend que les trois, on est pas mal d'accord qu'Arrival était leur meilleur, donc c'est l'album qu'on vous conseille. C'est une pochette bleue avec des petits extraterrestres dessus.
Ben, tu peux pas te tromper, c'est dans le rayon des produits congelés.
Pour le prochain bloc, je vous invite un peu ailleurs. Plus dans le black. Mais différentes approches de black. Sortez pas tout de suite votre gros maquillage et vos crânes de bœuf.
OK. 50 Cent pour commencer?
Non, un band que j'ai découvert il y a quelques années, Zeal and Ardor. Un excellent band, vraiment, puis plusieurs personnes tracent les origines du métal vers le vieux blues, même. C'est comme des années... Bon, c'est quoi? Dans le vieux blues, on est quasiment au début du 20e siècle, à toute fin pratique. Puis Zeal and Ardor ont exploité ça à merveille. Je trouve qu'il y a vraiment des sonorités de vieux blues crasses, sais-tu?
Ben, je suis d'accord avec toi, mais Zeal of Ardor, moi, sur la playlist de centre d'achat, je les ai pas mis dans ma playlist métal.
Ben, c'est ça que j'ai mis une pièce de l'album Stranger Fruit, puis les premières pièces de l'album, c'est quasiment uniquement du blues. Mais la pièce que j'ai mis, Don't You Dare, il y a quand même une passe black intéressante. Fait que j'ai bien aimé comment ils ont marié le style.
Ouais, ça, c'est un bon album. J'avais pas entendu grand-chose qui sonnait dans le style, en effet. C'est, je trouve ça le fun quand des groupes arrivent avec des du core. Dans le fond, ça doit être du blues core, eux autres qui font.
Du blues core.
Ouais, je sais pas. Je dois peut-être classer dans l'avant-garde, là, mais moi, j'ai bien aimé le vocal un peu gospel qu'ils ont. Il y a plusieurs personnes à chanter. Non, c'est un band intéressant.
Ouais, fait que si vous écoutez l'album, faites pas le saut. Ça se peut. Effectivement, au début, ça sonne plus vieux blues, mais c'est quand même excellent. Il y a des petites passes de... Sûrement que ceux qui aiment plus le blues n'aimeront pas les passes de black, mais tant pis pour eux. Le deuxième band, c'est Yoth Iria. Un band de Grèce encore. Je pense que je suis deux en deux pour la Grèce. Formé en 2019. C'est leur premier album, mais c'est des musiciens d'expérience. En fait, c'est des membres fondateurs de Rotting Christ. Alors, ouais, c'est une très bonne production, mélodique, bonne ambiance. Alors, c'est présentement, cet album-là est présentement top 1 des albums de 2021 sur Metal Storm.
Mais, est-ce que Rotting Christ existe toujours, vu que ces gars-là sont rendus là ou...
C'est une excellente question à laquelle je n'ai point la réponse. Je pourrais demander à Peter. Peter? Non, tu sais pas. Peter sait pas plus.
Bon, dommage.
On va chercher la réponse pendant la pause et on vous revient avec ça. Donc, Yoth Iria. Mais tout d'abord, Zeal and Ardor au lutin de l'enfer. We will fucking kill you. Une sympathique pièce du groupe du Royaume-Uni qui s'appelle Anal Natrak. Un band composé de deux personnes, le chanteur qui s'appelle Vitriol, séparé par des points, et celui qui fait la basse, la guitare et le programming s'appelle Irumator. Soulignons la prestation en 2018 dans le band de Danny The Complete Lunatic qui a contribué au ukulélé.
Ah, c'est drôle. On salue ce Danny au ukulélé.
Danny The Complete Lunatic. Un band quand même intéressant. Je trouve Anal Natrak, j'aime bien cette pièce-là. We Will Fucking Kill You. C'est un extrait de leur 9e album de 2016. Ils ont 11 albums en tout. Ça varie entre le black symphonique puis entre le gros. Je sais pas si c'est du grindcore, mais tu sais, quand ça varge pour varger.
Ouais. Ou du ukulele core.
Non, Danny, The Complete Lunatic, c'est juste pour une pièce, je pense.
Ah.
C'était pas celle-là, mais ouais. Fait que non, intéressant, Anal Natrak, mais honnêtement, quand j'écoutais l'album, il y a des pièces que j'ai skippées. Là, à un moment donné, c'est juste comme too much. Tu sais, le chanteur qui pique puis que tout varge en même temps. Oui, mais non.
Non, c'est ça, c'est le fun une fois de temps en temps quand tu veux impressionner du monde. Tu sais, quelqu'un, moi, j'aime pas ça, le métal. Mais faire écouter quelque chose qui va peut-être pas te faire changer d'idée. Mais bon.
Ouais. Puis juste un petit suivi, on a la réponse pour Rotting Christ. Le groupe est toujours actif. Et le membre de Yoth Iria qu'on a entendu juste avant, il a été dans le band seulement de 91 à 95. Il s'appelait alors Morbid. Maintenant, il s'appelle The Magus dans Yoth Iria.
Ça doit coûter cher de changement de nom au gouvernement, là, changer de nom aussi souvent.
Bon, en Grèce, ça paraît trop compliqué.
Non, c'est vrai, inclus.
Ils ont des lois bizarres là-bas.
C'est inclus. Une fois par année, t'as le droit de t'appeler.
T'as le droit de changer de nom et de dropper ta carte de crédit.
Rajouter des extensions à ta maison.
Une fois par année, tu sais, du coucher du soleil au lever du soleil, tu sais. Si au lever du soleil c'est bâti, c'est fini, y a pas de problème. C'est pas ajouté à ta valeur à rien. Fait que, on s'entend-tu que ça en monte des murs, ça se grouille.
Hey, en parlant de monter des murs, c'est le temps de la chronique du film Bidon.
C'est le moment de la chronique, les films bidons.
James Bond nous a parlé. Oui, James Bond a fait des films bidons. Le film Mégaton, ça vous dit peut-être quelque chose.
La course du siècle.
Ouais, la course du siècle. En anglais, c'est Fire, Ice and Dynamite. Moi, c'est un film que j'ai vu trois fois au cinéma.
Trois fois?
Mon Dieu.
Ouais. Ben, je vais faire une histoire courte. Je m'en vais au cinéma, rejoindre un ami pour écouter des Tortues Ninja 2. Puis, ouais, ça nous rajeunit pas tout ça. Puis, malheureusement, il y avait plus de place pour les Tortues Ninja 2. Tu sais, je sais, c'est dur à concevoir, mais non, la salle était comble. Fait qu'on savait pas trop quoi faire. Ça, quand on allait voir Mégaton. Et je suis retourné le voir. Mais c'est un film de cascadeur, de cascade surtout. Là, tu regardes pas le film pour l'histoire, vous allez le comprendre dans pas long. Puis juste en partant, le film commence en disant « Ce sont des cascadeurs, ne faites pas ça à la maison. » Donc voilà, vous êtes prévenus. Avec Roger Moore, après avoir fait sa carrière de James Bond, il a pris une retraite bien méritée. Il est allé s'acheter un petit château dans les Alpes, quelque part en Europe, là, c'est plus ou moins spécifié. Puis on sait que le personnage de Roger Moore a des goûts excentriques. Une de ses trois secrétaires l'approuve. Elle a des leggings léopard. En partant, quand ta secrétaire est en leggings léopard, là, tu sais que c'est kinky dans ton château. Bref, puis en plus, son château, il reste en haut d'une petite montagne, puis lui, il a un rendez-vous, c'est qu'il se pousse pour aller à son rendez-vous, pour aller à son héliport, parce qu'il y a son héliport privé. Il y a un kiosque à bananes à côté. Ils vendent juste des bananes. Ça fait
juste
que,
des bananes.
Ouais, c'est ça, un kiosque de bananes, Chiquita, à côté d'un héliport d'un château, tu sais, regarde, c'est en partant plein de propices à de la cocasserie. Fait que là, notre ami Roger Moore, il s'en va dans son jet privé après avoir fait un tour d'hélicoptère là, pour faire montrer des noms qu'on reverra jamais dans aucun autre film, comme qu'IMDB vont nous le prouver. C'est qu'il se pousse dans son jet avec plein d'autres hommes d'affaires, puis c'est là qu'on se rend compte finalement que tu sais, James Bond a mis beaucoup d'argent un peu partout dans des sociétés pour avoir le contrôle. Puis on se rend compte que ce gars-là, c'est un écologiste. T'sais, il aime les castors, il aime les forêts. Puis il se pogne avec tous les autres hommes d'affaires dans l'avion parce que lui, il veut sauver des rhinocéros. Puis les autres, ils n'en ont rien à foutre. Il faut du pétrole. Fuck les rhinocéros. C'est que lui, il dit qu'il y a un seul moyen de régler ça. Puis il tire en bas de l'avion. rien de moins. Mais c'est une ruse. Il camoufle sa mort de même. Là. Il le spoil comme deux minutes après là, qu'il n'était pas vraiment mort. Fait que là, les hommes d'affaires sont tous là, mais qui va s'occuper de toutes les affaires de notre ami James Bond? Il dit, ah, c'est ses enfants. Fait que là, ah, il y a des enfants? Oui, de trois mères différentes. Il y a une petite fille qui s'appelle, ils sont tous rendus dans la vingtaine, là. Il y a Lucie, qui est une rebelle qui sait pas chanter. Il y a Dudley, qui est un homme d'affaires qui est bien occupé. Puis il y a Alexander, que lui, c'est un excentrique. On voit qu'il est excentrique en partant, juste quand il rentre dans le château de son papa. La décoration le frappe, il se demande qui a fait la décoration. Est-ce que c'est Genghis Khan? C'est que déjà là, on voit le style du château. Puis lui, il sait qu'il y a un autre frère et une autre sœur. Puis comment il dit qu'il va aller voir? Il dit bon, allons voir les autres bâtards. Donc, tu sais. Donc, Roger Moore, tout le monde est là pendant la lecture testamentaire. Puis il dit que finalement, lui, il aime vraiment beaucoup les rhinocéros puis tout. C'est qu'au lieu de léguer sa fortune à ses enfants ou dans toutes ses sociétés et tout, il met tout en jeu. Tout son portefeuille d'actions, ses propriétés, tout ça pour la somme de, tenez-vous bien, 133 millions de dollars. Je veux bien croire, ça fait des années 90, là, mais tu sais, Sandbell a coûté quand même 400 millions. Là, ça fait que... Ça coûte plus cher que ça de partir un club de hockey à Star. 133 millions ouais. Qui sont pour la course du mégaton. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un gagnant et ils gagnent tout le cash.
Tout le 133 millions.
Le 133 millions. Et ben, il y a des cents aussi, là. Mais bon. C'est-à-dire que là, tout le monde, tous les actionnaires, tout le monde veulent se faire une team de champions pour go aller gagner le mégaton. Puis dans toute cette gang-là, il y en a un qu'on sait pas comment ils ont eu la nouvelle d'eux, mais c'est des méchants. Parce que sont chauves, ils sont sales, ils vivent dans une maison en ruine, ça qu'on sait que c'est des méchants. Puis on sait pas pourquoi ils sont méchants arrêtés. La mère qui explique ça dans le film, c'est une vieille histoire familiale que tout le monde se calisse, là, dont les réalisateurs du film. Fait qu'eux autres, ils disent non, non, on va faire partie du mégaton, puis on va tuer les descendants de Roger Moore. T'sais, personne ne savait qu'il y avait des enfants, mais eux autres, ils le savaient. T'sais. Bref, plusieurs choses inexpliquées comme ça. C'est que là, les enfants, eux autres, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie. Là, ils sont pas entraînés pour ça, gagner des championnats de course extrême. Ça fait qu'il faut qu'ils s'entraînent. C'est que là, on va commencer avec quelque chose de facile, du ski. C'est que là, pendant que Alexander il risque sa vie en descendant du ski parce qu'il n'a jamais fait de sa vie, et je vous le dis, la cascade est incroyable. Le gars, c'est tout un cascadeur. Pour un gars qui sait pas skier, là, qui s'en sort vivant, c'est incroyable. Il finit sa course après avoir tombé en bas d'un deltaplane au travers d'un autobus, tout ça pour faire du ski. Là. C'est que... Bref, il trouve un nouveau champion avec eux autres, un gars de ski. Il recrute du monde ici et là, puis ils ont besoin d'un nom d'équipe, et le nom d'équipe sera le Fire and Ice. Parce que ça a l'air, c'est la devise familiale. Ça veut rien dire, comme tout le reste du film à date. Puis là, tu sais, il y a plein de scènes cocasses. Les méchants s'entraînent et tout à faire du paraski. Je veux dire, ça, c'est du ski avec un parachute. Puis il y a une scène tout à fait impossible qu'un des méchants tombe dans une maison. Il ressort de la maison avec le bain et une fille dans le bain parce que, tu sais, dans les années 90, 80, ça prenait tout le temps des totons d'un film. Puis là, tu sais, la fille est dans le bain, lui est dans le bain avec ses skis, puis son parachute, puis tout est dans les airs. Vous dire, comment le parachute tient après le bain? Bref, un paquet de petits moments cocasses et loufoques comme ça. Finalement, vu que les méchants, ça marche pas avec leur équipe de pas bons, ils rejoignent une équipe de moines bouddhistes qui s'entraînent aussi à faire du deltaplane. Donc,
ça fait partie de leur religion.
Oui, c'est les moines du deltaplane. Et finalement, enfin, tu sais, après déjà 1h45 de film sur un film de 2h, on a la présentation des équipes. C'est que là, on voit toutes les teams, avec tout du vrai monde comme Paula Abdul, Buzz Aldrin, puis un paquet d'autres qu'on connaît pas. Puis toutes des teams le font, Bayer, Adidas, Fire and Ice, le Club Med, tu sais, bref, beaucoup de monde. Puis il y a la team du kiosque de bananes. Giovanni, lui, il est tout seul. Il y a sa Chiquita qui tient ses bananes Chiquita. Puis lui, il va être l'athlète de toutes les épreuves. Et justement, les épreuves, c'est ça qui est vraiment intéressant du film. Hein, c'est pas l'histoire. Ça va juste dire vite les épreuves. La première épreuve qu'on a le droit, c'est une descente alpine dans de la roche. Il n'y a pas une once de neige là, pas en tout. Ça fait qu'ils descendent une bonne montagne avec, dans de la grenade, puis tu sais, il y en a qui a des skis qui envoient de la neige, il y en a un qui a des genres de chenilles après ses skis, il y en a un en trois skis. Il y a une équipe d'Allemands bavarois, ça brosse, qui font juste boire de la bière, qu'eux autres, ils ont un genre de gros sleigh avec trois gros kegs de bière là-dedans, tu sais, c'est tout pour risquer sa vie. Puis un coup, ils sont en bas, ils passent un relais parce que c'est des courses à relais. Puis là, c'est une course de montagne, de bike de montagne extrême. Là. C'est des bords de ravins, des jumps, des rivières, tout. C'est vraiment cool pour de vrai. Il y a plein de monde qui se casse la gueule. Ils font l'étalage des fractures et tout à la fin de la première journée. C'est une bonne journée. La deuxième journée, parce que trois épreuves, c'est en trois jours, on n'a pas de temps à perdre. Surtout qu'il reste 15 minutes au film. La deuxième vraie épreuve, c'est qu'ils escaladent un barrage. Puis c'est un pan de mur, le barrage. Là. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose à gripper après un barrage. Ça fait que, ils ont plusieurs stratégies. Il y en a un qui c'est de la colle forte. Il y en a un qui a des drills après les mains et les pieds pour monter. Il y a un charmeur de cordes. Ça, c'est la team de moine. Ouais, il se concentre, puis la corde fait comme un serpent, puis ça monte en haut. Puis on n'a pas dit que c'était logique là, comme film.
La magie.
Puis les méchants là-dedans, oui, c'est la magie du cinéma. Puis les méchants là-dedans, ils essaient toujours de tuer les héritiers puis faire des explosions. Là. C'est qu'il y a des explosions dans ça, là, je vous dirais pas où, mais il y en a même dans l'épreuve d'escalade.
De là, le titre du film, Fire and Ice and Dynamite.
Dynamite, et voilà.
Ah! Je viens de comprendre.
Ensuite, quand ils ont réussi à monter le barrage, ils donnent le relais pour une petite course à pied. C'est que là, il y a de la course. Puis la personne qui fait de la course, finalement, doit donner un relais pour une descente dans des rapides. C'est que ça, c'est quand même vraiment cool. La descente est rapide, là, puis c'est du kayak extrême. Il y a l'équipe de Soulon, eux autres, leur kayak, c'est juste un baril que le gars rentre dans son baril. Puis Hawaii Go, on verra ce qui arrive. Giovanni puis ses bananes, c'est un radeau en forme de banane. Il y a des gags de même. Adidas, c'est l'équipe la plus abrutie. Le gars, il est debout avec comme un canot par pied. Quand tu veux de quoi dangereux dans la vie, là, tu sais, des déchets d'Eden, là. Non, vraiment pas. Ça fait que... C'est ça. Puis là, finalement, les méchants, sans faire rien exploser, ils réussissent à saboter un rocher qui tombe sur le canot de Dudley. C'est que là, eux autres, ils finissent la course comme genre 6e, 8e. Je sais pas combien, on s'en fout. Puis là, ils sont down, tu sais, après la deuxième journée d'épreuve parce qu'ils ont reculé au classement. C'est que là, ils sont tous au bord. Tout le monde est là. Tout le monde est down de cette équipe-là. Les autres équipes, ça va très bien. Finalement, Lucie, la fille qui sait pas chanter, elle décide de faire une chanson rassembleuse qui, ah, c'est plate, c'est long, c'est, ah non, c'est pas le fun pantoute. Puis le bout est trop long, puis tout le monde est donc heureux. Puis c'est ça, de belle fin de soirée, on passe la main de veille pour la troisième épreuve. La troisième épreuve, ça commence avec un super G. C'est toute une descente de ski parce que t'as de tout là-dedans. T'as de la grande vitesse, t'as du slalom, t'as des bosses, t'as du off-track, puis t'as même un loop. Ça fait que, tu sais, t'as tout là, là-dedans. Il y a même des skis avec des breaks, il y en a un qui a des réacteurs après ses skis. Il y a de tout. Et quand ils ont fini leur course de même, ils donnent un relais pour faire une course de rallye en char. Puis, encore une fois, il y a plein de chars différents. Nos ivrognes de keg, eux autres, ils ont un Bigfoot, bien sûr. Comment, tu sais, gagner puis écraser la concurrence? C'est que, puis là, pendant la course de char, il y a un genre de gag qui est beaucoup trop long d'un couple de bonhomme et une bonne femme qui bloque la circulation. Là. Hey, ça s'est pas chauffé, ces jeunes-là. Ça fait que c'est beaucoup trop long. Faut faire vite, il reste 5 minutes au film. Ils donnent le relais, puis c'est pour la dernière épreuve de toutes. Puis c'est du patinage de vitesse dans une piste de bobsleigh, qui est quand même vraiment le fun à regarder et relativement dangereux dans la vraie vie. C'est pour ça qu'ils disent de ne pas faire ça à la maison. Et finalement,
tout le monde a une piste de bobsleigh à la maison.
Ben, c'est pas tous les pays qui en ont, mais oui, au Canada, nous avons notre propre piste de bobsleigh perdue dans le Nunavut.
On va l'essayer. Non, je sais pas
où, là, mais. Ouais, on va l'essayer ça en fin de semaine. C'est que finalement, Alexander, qui l'excentrique bizarre, c'est lui qui gagne la course. De patin de vitesse, ça fait que les héritiers ont gagné la fortune. Ils retrouvent leur père, tout le monde est content, sauf les méchants. Ça fait que c'était le film Mégaton.
Qu'est-ce qui arrive au vendeur de bananes?
Ben, il a abandonné. Là. Sa blonde, elle voulait pas qu'il aille faire la dernière épreuve. Elle trouvait ça trop dangereux. C'est qu'à la place, il s'embrasse en mangeant des bananes.
Donc, c'est un film qui a marqué mon enfance. Moi, j'ai... On a eu un vidéo tard chez ma famille. Fait que quand ça jouait à TV, OK, on notait la date, puis il fallait que j'écoute Mégaton.
Ouais.
Mes parents ont décidé d'aller avec le bêta au départ.
Ah, l'erreur.
Fait qu'après ça, ils se sont dit, bah, ça sert à rien, vidéo, anyway, ça pète, puis on peut rien faire avec ça. Fait que ça a été long avant qu'on raille une vidéo, mais bon.
Ben ouais, non, c'est un bon film quand même. Ben, c'est divertissant. C'est pour les cassettes, parce que me dire, pour l'histoire, là, ouais. C'est nullement intéressant. Là. Les dialogues sont tout aussi inintéressants. Là.
Bon. C'est comme Taxi, t'écoutes ça pour les cascades de chars, etc. Là.
Ouais, je me rappelle pas, il y a une histoire dans Taxi non plus.
Que, tu poursuis en.
Moi, y aller avec mon dernier bloc.
En émotion.
Ouais, en musique. En émotion, après, tu sais, tant d'émotions, on va avoir encore des jeunes adolescents frustrés qui pleurent parce que Giovanni a pas fini la course. On va entendre le groupe Famous Last Words, la pièce Labyrinthe de l'album Pick Your Poison, paru en 2012, c'était leur tout premier album, c'est un groupe américain. Je connais surtout le groupe via des singles parce que j'ai quand même quelques pièces là, dans mes différentes compiles. C'est bien, ça pleure, mais il y a quand même des bons bouts de violent, là, donc c'est pour ça que j'ai choisi. On va avoir un groupe britannique juste avant, le groupe The Defile, qui ont sorti deux albums. L'album Daggers, paru en 2013, est excellent, c'est leur deuxième et dernier album. C'est la pièce Unspoken. Moi, dans le fond, j'ai découvert ce groupe-là avec cette pièce-là. Et dans le vidéoclip, il y a une scène avec un scalpel et un œil que le monde a mieux pas regardé. Donc,
ça peut être déplaisant.
C'est pour ça qu'il pleure, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, on va écouter ça. The File, un petit groupe bien du UK. C'était la pièce Man at War du groupe The Dead Rabbits, tiré de l'album This Emptiness, paru en 2017. C'était leur deuxième album. J'ai découvert Dead Rabbits tout récemment, pour justement quand je préfère un groupe des blogs d'adolescents pas contents. J'ai vu que c'était un groupe qui était conseillé par rapport, semblable à ça. J'ai écouté, puis j'ai bien aimé. J'ai écouté pas mal tous leurs albums, puis c'est super cool, Dead Rabbits, là. Il y a autant des tunes qui pleurnichent qu'il y a des tunes qui vargent qu'il n'y a pas de pleurage dessus. Donc, un petit groupe intéressant à découvrir.
Ouais, c'est quand même un style amusant.
Ouais, tu sais, j'aurais pu mettre du Eskimo Callboy, mais j'en avais déjà mis un triplé dernièrement. Il y en a plein de groupes là, que ça braille. Tu sais, Caliban, il y a des tunes que ça pleure dessus aussi. Là, quand Claude se met à chanter, ça fait que... Même Norther, à l'image, quand Monsieur Rantos m'a chanté, là, tu sais, arrête de pleurer. Bref, vous comprenez, c'est large, là, les adolescents pas contents. Là. Est-ce que Slipknot rentre là-dedans?
Oui, qu'est-ce que lui, le vargeur de keg, peut-être. En parlant de pas contents, c'est nos glorieux qui seront pas contents d'avoir laissé filer une avance de 3-1.
Ouais.
My God. C'est la prolongation.
C'est la prolongation. Ouais, là, j'ai des comptes à rendre à du monde là, qui m'écœure en même temps. Là. Une de mes chums de filles, je la salue, Andréane, qui m'écrit la coupe en riant. Oui, moi, j'ai juste répondu ta gueule. Donc, sans discernement.
Direct.
Me fous-tu à une amie? Non, ta gueule. Arrête de rire de moi.
Alors, donc, nos auditeurs devront attendre 2 semaines avant de savoir le résultat du match.
Oui, parce qu'au Québec, on va mettre ça sur pause. Ok, ouais, pour finir l'émission, moi j'irai avec la nouveauté. C'était moi qui l'ai choisi cette semaine.
Ouais, c'est fort.
Plus besoin de faire la file au magasin de disques. Les lutins vous présentent la nouveauté de la semaine.
Ben, je suis avec un groupe qui pleure encore une fois. Le groupe, c'est le lutin grec, là, Yann, qui m'avait proposé ça. C'est un groupe, c'est moi qui l'ai fait découvrir et que j'oublie souvent. Le groupe, c'est Like Moth to Flames, un groupe des États-Unis. Ils ont sorti un album, genre l'an passé, je crois, qui s'appelait No Eternity in Gold. Et le 14 mai qui vient de passer, ils ont sorti No Eternity in Gold, mais la version instrumentale. C'est cette version-ci que je vais vous mettre. C'est leur 6e album. Je vais mettre la pièce Habitual Decline. J'ai écouté j'avais pas écouté l'album d'avant qui chantait, c'est que j'ai écouté l'album instrumental en premier. Il est vraiment meilleur que l'album où ce qui pleurniche avec le vocal. Parce que j'ai écouté celui avec le vocal par après, puis j'aime mieux l'album instrumental. C'est des gars, c'est des bons musiciens pour de vrai. Ils ont des bonnes idées musicales, ça s'enchaîne bien. Puis le fait qu'il pleure pas, je pense que ça fait que l'album il est moins downer. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais...
C'est plus motivant.
Ouais, c'est plus motivant à écouter. Ça fait que si ça vous tente d'écouter un album instrumental, c'est intéressant parce que je trouve que on n'en passe pas souvent, on n'en parle pas, mais dans le métal, il y a beaucoup d'albums instrumentaux. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, le métal, tu sais, j'aime pas ça à cause que le chanteur, tu sais, c'est « Ah, ça crie » ou « etc. » Moi, j'ai toujours pour mon dire qu'un chanteur, c'est pas si important que ça. Il y en a qui disent « Ah, non, le chanteur, c'est ce qui est le plus important d'un groupe. » Moi, souvent, deux arguments que je vais dire, c'est « Il y a beaucoup plus d'albums instrumentaux qu'a cappella, là, on s'entend. » Puis, tout ce qui est classique, tu sais, il n'y a pas de chanteur, là, avec Vivaldi et compagnie. Donc, tu sais, je pense que de ce point de vue-là, le chanteur n'est pas si important que ça. C'est un instrument parmi tant d'autres. Mais le monde aime ça, pouvoir chanter. Ça fait que c'est pas tout le monde qui sont aptes à chanter de la guitare, faire des dug-a-dug ou faire du dish-dish de drum. Là, ou
des yeah.
T'es fouille, des yeah. Non, mais yeah, c'est des paroles. Mais il y a beaucoup de groupes de musique, je pense qu'ils pourraient même pas dire des paroles, juste faire. Puis ça fêterait, ça serait correct. Là.
J'ai pogné beaucoup de groupes qui inventent des langues aussi, justement. Quitte à y aller juste en, comme un instrument, ben. Ils inventent des langues.
Et pourquoi pas? T'sais, Tolkien l'a fait avec les elfes, Monsieur Spock l'a fait pour les Klingons, donc.
À quand le band metal qui chante en elvish?
Ben, il y en a probablement. Là,
sûrement qu'il y en a.
Sur la terre du milieu, à quelque part. Là, les troubadours de l'enfer.
Évidemment, on exclut le band Van Canto qui ne fait que chanter. C'est un band, on pourrait dire a cappella.
Ah, ils ont un drummer à cette heure.
Ouais, ça fait plusieurs années qu'ils ont un drummer. J'ai, ben, il y a Pentatonix, que eux, c'est pas du métal, mais eux, c'est vraiment que du vocal. Mais ouais, notre ami Guillaume m'a justement demandé à quand une émission spéciale Val Canto. J'ai dit jamais. C'est peut-être une chanson de Van Canto un jour, mais genre, on se va pas chier qu'une émission de Van Canto, certain.
Ça m'inspire un triplé de Van Canto. Ram, ba, da, dam, bam, bam.
On a tout signe en metal song, là. Mais bon.
Bon. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, bonne prolongation.
Ouais. Profitez de l'été qui s'en vient.
Voilà. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes où nous sommes.
C'est-à-dire Facebook.
Ouais, sur Facebook, je continue de mettre des notes à bene. Moi et le Lutin D, on garoche des vidéoclips également une fois de temps en temps. Il faudrait que le Lutin O se mette à mettre des vidéoclips également une fois de temps en temps. Puis sinon, il y a tout la playlist. Hein. Si vous n'avez pas Spotify, la version premium, plus tard, j'aimerais entendre les chansons complètes. Bon, on met la playlist en même temps, donc vous pouvez l'écouter. Puis quand vous aimez une playlist, vous aimez un note à bene, vous pouvez l'ajouter également, là, le sauvegarder dans votre bibliothèque Spotify pour l'avoir à portée de main tout le temps.
Et vous verrez de la même occasion notre superbe logo conçu par un ancien collègue à toi, Lutinka.
Ouais.
Donc, ben voilà. Sur ce, les lutins, à la prochaine. Skol!
À la prochaine. Cheers!
Une autre bière par ici!